Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
12h30 et 14h30, 2h d'infos, de débat, mais aussi d'opinion avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud, tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, les sportifs rattrapés par le Covid, les handballeuses vont devoir être vaccinées pour participer au Mondial le mois prochain. C'est une première. Dans ce journal également, le procès d'un violeur récidiviste. Et puis on essaiera de comprendre ce qu'il s'est passé dans l'ISS. Les astronautes ont été mis à l'abri après un tir de missile anti-satellite russe.
Deux sujets de débat à partir de 12h40. Le niveau des élèves de 6e qui reste inquiétant. Zone d'éducation prioritaire, notamment 1 sur 3 n'a pas le niveau demandé en CE2. Et puis à 12h50, faut-il boycotter la Coupe du Monde au Qatar? Certains supporters français l'envisageraient.
Et c'est justement notre question du jour sur RTL.fr. Au nom de l'éthique, donc, faut-il boycotter ou non cette Coupe du Monde? Vous dites oui à 72%. La météo du jour, c'est avec vous, Peggy Broche. Bonjour.
Bonjour Amandine.
C'est encore bien gris cet après-midi.
Et oui, c'est vrai, peu de pollution par rapport à ce matin. Ça reste couvert avec de plus petites pluies éparses par endroits des frontières du Nord aux Pyrénées. En revanche, c'est bien ensoleillé sur le pourtour méditerranéen jusqu'aux Alpes avec du vent et bien gris avec quelques averses sur l'est de la Corse. Les températures, elles sont généralement comprises entre 8 et 13 degrés jusqu'à 20 près de la Méditerranée.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et d'abord donc cette première, le vaccin anti-Covid obligatoire pour disputer un championnat du monde. Ainsi en a décidé la Fédération internationale de handball. Bonjour Isabelle Langer.
Bonjour.
La règle va s'appliquer dès le 1er décembre pour le championnat du monde féminin qui aura lieu en Espagne.
Effectivement, l'an passé les filles avaient été quasiment les premières à expérimenter à l'Euro une compétition sous bulle à huis clos. Dans deux semaines, elles seront donc les premières à jouer un mondial sous vaccin. Vous imaginez bien que cela n'est pas du goût de tout le monde. Alors si cela ne pose aucun souci aux Bleus qui ont toutes reçu leurs deux doses avant de partir au JO à Tokyo en août dernier, la médecin de l'équipe de France, Cindy Connor, estime tout de même que la décision arrive un peu tard.
Certains pays, ça on en est presque sûr, certaines joueuses ne sont pas vaccinées. Donc, est-ce qu'ils vont s'opposer au fait que leurs meilleures joueuses ne puissent pas participer à la compétition? J'imagine que oui. Ils pourront de toute façon opposer l'argument qu'on les a prévenus très tard et que de ce fait, ils ne peuvent pas, ils n'ont plus le temps de les vacciner.
Autre souci, tous les sérums ne sont pas autorisés en Espagne, notamment le Sputnik russe. Une chose est sûre, pour les organisateurs, généraliser le vaccin pour participer au mondial, c'est aussi moins de tracas, car moins de tests notamment à effectuer au quotidien.
Mais sans doute peut-être plus de polémiques, en tout cas on suivra ça. Merci beaucoup Isabelle. Isabelle Langer du service des sports d'RTL. Dans l'actualité également, le procès de David Rameau, ce récidiviste accusé de viol et du meurtre de la petite Angélique. L'affaire à l'époque, en 2018, avait suscité une très vive émotion. Relancer aussi le débat autour de la castration chimique des délinquants sexuels. 3 ans plus tard, l'accusé a, pour la première fois, reconnu publiquement les faits, Frank Hanson.
Oui, alors que les proches d'Angélique font bloc au premier rang, une photo de l'adolescente sur les genoux de la maman, David Rameau, crâne dégarni, carrure imposante, écoute tête baissée le récit insoutenable de ces faits qu'il assume pleinement. « J'ai eu une excitation soudaine pour Angélique », explique l'ancien chauffeur de bus. « J'ai rusé pour l'attirer chez moi. Je n'ai pensé à rien d'autre qu'à mon plaisir égoïste. » Père de famille rangé pendant 20 ans après une première condamnation pour viol, David Rameau a donc replongé pour une pulsion, selon les mots de son avocat. Debout d'un ton mécanique, l'accusé détaille brièvement les violences sexuelles qu'il a fait subir à Angélique. Elle a repoussé ma main, j'ai paniqué, je l'ai tué lâchement en l'étouffant avec son pantalon. Anaïs, la grande sœur de la victime, s'effondre en larmes. Le meurtrier présumé, après s'être débarrassé du corps, était retourné travailler comme si de rien n'était le lendemain. Une personnalité trouble, bien insérée dans son quartier avant Brochy, généreux et serviable selon son entourage. Il ne faisait l'objet d'aucun suivi depuis sa libération.
Frank Hanson à Douai devant la cour d'assises du Nord pour RTL.
2 semaines après la mise en examen du comédien Harry Habitant, l'avocat de la jeune femme qui l'accuse de viol prend la parole sur RTL.
Il évoque des faits d'une extrême violence, faits pour lesquels sa cliente s'est vue prescrire une dizaine de jours d'ITT.
Ma cliente, elle est victime. Elle est victime d'un viol, avec violence, et d'une violence inouïe. Ce sont des coups et blessures, ce sont des coups violents. Constatés par des ITT, les violences qu'elle a subies n'ont pas été inventées. Elle n'a pas inventé le préjudice moral. C'est pas parce que vous établissez une relation intime avec quelqu'un que vous pouvez tout accepter. Monsieur Habitant, il est présumé innocent, mais ma cliente, elle doit subir une atmosphère compliquée. Je demande de la mesure au diffuseur. Quand je vois que ma cliente doit subir une double peine à voir les spectacles de son agresseur présumé, je dis que ça manque de mesure.
Maître arrache les bras en barre au micro RTL de Guillaume Franquet. Et puis dans l'affaire Jubilard, nouvelle audience aujourd'hui pour Cédric, le mari, qui réclame une nouvelle fois sa remise en liberté. Mise en examen pour meurtre, il continue de nier les faits. Hier, les proches de Delphine, son épouse, toujours introuvable, se sont réunis pour un hommage. La jeune femme aurait dû fêter ses 34 ans.
Tout à fait autre chose à présent, le début aujourd'hui, porte de Versailles à Paris du Congrès des maires de France.
Les élus doivent élire leur nouveau président, celui qui remplacera François Baroin. Bonjour Benjamin Sportouche.
Bonjour.
C'est un peu, vous nous disiez, une petite présidentielle avant la vraie.
Eh bien oui, alors en tout cas l'occasion pour les macronistes et les républicains de mesurer leur force. Alors je vous explique, il y a un côté un peu Dallas sur mer. Pour succéder à François Baroin, vous avez deux candidats. D'un côté le maire de Cannes, David Lisnard, soutenu par les républicains. De l'autre, un petit nouveau sur la scène nationale, Philippe Laurent, maire UDI de Sceaux, qui est lui soutenu discrètement par les macronistes. Sauf que tout n'est pas si simple. Hier, Renaud Muselier, le président LR de PACA, a semé la zizanie. Il a écrit aux maires de sa région pour leur demander de ne pas voter Lisnard qui, je le cite, du haut de son tapis rouge, niché dans son palais des festivals, est déconnecté du quotidien. Bref,
trop
strass et paillettes. Alors ça sonne comme une petite vengeance de Muselier contre Lisnard qui ne l'avait pas soutenu au premier tour des régionales face au RN, c'était en juin. Réplique d'Éric Ciotti qui a aussitôt défendu son ami Lisnard en qualifiant lui Muselier de petit télégraphiste de Macron. Ah, et pour corser le tout, eh bien Éric Zemmour vient d'appeler sur Twitter sans le dire à voter pour le maire de Cannes. Voilà, alors tout cela fera-t-il ou non ?
Je ne sais pas s'il lui a rendu service.
Exactement, c'est vous qui l'avez le dit, Pascal Pro. Alors tout cela fera-t-il ou non le jeu de la Macronie et de son candidat ? Fin de ce suspense insoutenable, eh bien demain. Demain après-midi, normalement.
Et j'ai vu passer un tweet tout à l'heure de Renaud Muselier disant que si Éric Ciotti était élu cette fois-ci à la primaire LR, il quittait ce mouvement et il dit pas de place pour l'extrême droite.
Il parle d'Éric Ciotti. Il n'en est pas loin en même temps de la porte de sortie.
Oui, mais ils sont dans le même parti, on le rappelle.
Vrai, jusque-là, ils sont dans le même parti.
Ambiance, comme disait Amandine.
Exactement.
Merci beaucoup, Benjamin. Et à 5 mois, justement, de la présidentielle, voilà un chiffre qui va sans doute alimenter le débat autour du pouvoir d'achat. Il concerne les dépenses contraintes. Ces sommes, vous savez, qui sont prélevées tous les mois, qu'on ne peut pas vraiment diminuer, loyer, remboursement de crédit, entretien de la voiture ou encore abonnement téléphonique, eh bien, ces dépenses représentent désormais en moyenne 1059 euros par mois, jusqu'à 1500 euros pour un couple avec 2 enfants. Rami Karam est le directeur général des Furet.com qui a justement piloté cette enquête.
Malheureusement, c'est quelque chose qui reste aujourd'hui très très lourd dans le budget d'un ménage. On est en train de parler de quasiment 70% dans le budget d'un ménage de catégorie pauvre. On est en train de dire que quasiment au 10 du mois, toutes ces familles-là, il leur laisse plus grand-chose, il y a peu ou pas de marge de manœuvre sur le reste à vivre de leur budget. Si on regarde il y a 6 mois jusqu'à maintenant, ce qui a bougé, ça va être les frais de carburant et les frais d'énergie. Il y a certaines dépenses qui sont en train de bouger dans le mauvais sens pour les consommateurs français.
Jusqu'à 70% des dépenses pour certains ménages, des propos recueillis pour RTL par Martial You. Lui a organisé et sécurisé l'évacuation de l'ambassade de France en Afghanistan au mois d'août dernier. Mohamed Bidin était ce matin l'invité d'RTL, cet ancien commandant de police, présenté par beaucoup comme un héros, a notamment raconté comment il a dû négocier, discuter avec les talibans. Écoutez.
On a un devoir, on a une mission. C'est effectivement de sortir de la nasse des centaines de personnes qui sont avec nous. Donc on ne se pose pas de questions. Et les talibans à Doha s'étaient engagés à ce qu'aucune représentation diplomatique ne soit attaquée. Donc on sentait bien qu'il y avait des limites, que ces groupes, qui pour moi pouvaient être incontrôlés, ne souhaitaient pas franchir, ne voulaient pas franchir. On était assez loin de l'aéroport, on était à 13 km exactement. Et quand vous avez un convoi de 20 véhicules, dont la plupart sont des bus, et qu'il y a des checkpoints tous les 500 mètres, et que la population de Kaboul se dirige en masse vers l'aéroport. Les derniers checkpoints, on n'a pas discuté très longtemps avec les talibans. On a arboré des drapeaux français, des plaques diplomatiques, et ça nous a servi de laisser passer. À l'aéroport, c'est un grand soulagement, parce qu'on quitte la zone dangereuse, en fait. Et là, on est déjà un peu soulagé.
Mohamed Bidin, invité ce matin à Dives Kelvi sur RTL. À 400 km au-dessus de nos têtes, les astronautes de la Station Spatiale Internationale ont, eux, été priés de se mettre à l'abri hier.
Station pour Houston, il faut vous réveiller plus tôt. On vient d'apprendre qu'un satellite a été détruit. Il faut débuter les procédures d'urgence.
Mesure de précaution après un tir de missile anti-satellite par la Russie. Les États-Unis, ce matin, condamnent un acte dangereux et irresponsable. Moscou indique de son côté que la sécurité sécurité de l'équipage de l'ISS reste sa priorité. Bonjour Sophie Jousselin.
Bonjour.
Ce qui est sûr, c'est que ce type d'incident n'est pas une première.
Effectivement, ce n'est pas une première, mais c'est quand même pas si fréquent que ça. Par exemple, c'est arrivé en 2015 et c'était déjà pour éviter les débris d'un satellite russe. Et en 2011, un débris était passé à seulement 250 mètres de l'ISS, forçant les occupants à se réfugier dans leur vaisseau. C'est donc ce qui s'est passé hier et c'est vraiment la procédure d'urgence absolue quand les agences spatiales sont surprises par l'irruption de débris dans l'environnement proche de la station spatiale. Une autre procédure, plus douce, est appliquée quand on sait qu'un débris va croiser l'orbite de l'ISS. Là, on a le temps de déplacer la station spatiale, c'est plus fréquent. Et d'ailleurs, c'est arrivé la semaine dernière à l'approche d'un débris de satellite chinois cette fois. L'ISS s'est déplacé d'un peu plus d'un kilomètre. Alors, les débris sont de véritables dangers, ils peuvent endommager la station spatiale, voire y provoquer une brèche qui engendrerait la dépressurisation de l'ISS, ce qui pourrait être fatal aux astronautes. Et à la suite du tir russe d'hier, les agences spatiales vont devoir répertorier les milliers de débris provoqués par cette explosion pour éviter de futures collisions.
Fascinant, merci beaucoup Sophie Jousselin. Non mais c'est vrai, tous ces débris comme ça, ça paraît complètement dingue.
Il y en a des millions.
Des millions. Et puis ça vous fait rire?
Oui, parce que je suis d'accord avec vous, c'est absolument fascinant. Et des millions de débris, c'est fascinant.
Bon, il y a du foot aussi ce soir.
Oui.
Finlande-France, dernier match de qualification pour la Coupe du Monde 2022. Sans enjeu, bien sûr, pour les Bleus, puisqu'ils ont déjà leur ticket pour le Qatar. Les joueurs de Didier Deschamps aimeraient tout de même terminer cette phase sans défaite. Le match sera bien sûr à suivre dès 20h40 sur RTL.
Dans quelques secondes, nos sujets du jour. Tout d'abord, la lecture, le niveau des élèves de 6e qui resterait inquiétant en zone d'éducation prioritaire notamment. Et puis à 12h50, après on parlera de la Coupe du Monde au Qatar. Mais d'abord, la lecture, c'est important.
RTL Midi. RTL Midi avec Amandine Bégot et Pascal Pro.
Le retard lié au Covid en fait a été entièrement compensé pour nos élèves, hein, aussi bien en CP, en CE1 qu'en 6e.
C'est la bonne nouvelle du jour. Les petits Français ont rattrapé le retard pris lors du premier confinement, que ce soit en mathématiques ou en français. Ils font même mieux qu'avant la pandémie. C'est ce qui ressort des évaluations de CP, CE1 et 6e qui ont été réalisées au mois de septembre. Le gros point noir, en revanche, ça reste toujours la lecture. Seulement la moitié des élèves de 6e ont le niveau attendu. Et en éducation prioritaire renforcée, en zone d'éducation prioritaire renforcée, on tombe à un tiers qui sait lire correctement. Un collégien sur trois n'a même pas le niveau de CE2, à savoir moins de 90 mots lu en une minute. Alors comment l'expliquer, que faire? C'est le premier débat d'RTL Midi. Bonjour Emmanuel Etis.
Bonjour à vous.
Vous êtes recteur de l'Académie de Bretagne. Merci d'être en direct avec nous sur RTL. Marie Guerrier, qui est spécialiste des questions d'éducation ici à RTL, nous a rejoint en studio. Bonjour Marie.
Bonjour.
Emmanuel Etis, d'abord, vous êtes l'un des fervents défenseurs du quart d'heure de lecture quotidien. Expliquez-nous comment ça fonctionne.
Oh, ça fonctionne très simplement. Vous savez, tous les jours, dans nos établissements bretons, on incite à prendre un quart d'heure pour commencer la journée ou commencer l'après-midi pour lire, pour se consacrer à la lecture silencieuse. Et tout le monde lit, nos élèves, nos professeurs, et tous ensemble. Et chacun sort son livre, qui est un livre plaisir, pour pouvoir effectivement montrer que le geste de lire est quelque chose d'important. Vous savez, la lecture, c'est d'abord la socialisation à la lecture. Et ce quart d'heure de lecture silencieux, à chaque veille de vacances d'ailleurs, on arrête toute la Bretagne pour que tous les établissements scolaires s'arrêtent en même temps, un quart d'heure pour lire. Et tout le monde sort son livre. Et je vous assure que cette socialisation où chacun regarde l'autre lire, parle de ses lectures, est un véritable encouragement, hein, qui relève vraiment de l'éducation artistique et culturelle, absolument nécessaire pour pouvoir se dire, ben voilà, la lecture c'est aussi ça, c'est aussi un geste social qu'il faut pouvoir encourager, et encourager évidemment à avoir des livres chez soi, à la maison, c'est aussi comme ça qu'on socialise à la lecture et qu'on facilite les choses, au-delà des bons résultats.
Pardonnez-moi, il devrait être imposé partout, tout le temps, tous les jours, à vos yeux, dans, j'allais dire, du CP jusqu'à la terminale?
Alors ça, chaque établissement fait ce qu'il peut et ce qu'il veut faire, et les enseignants aussi.
Le ministère pourrait décider d'imposer ça.
Mais le ministère l'encourage considérablement. Vous savez, on est aujourd'hui entré sur la lecture comme grande cause nationale, et ça fait partie des entrées évidemment proposées par le ministère de l'Éducation nationale sur le fait de faire ce quart d'heure de lecture silencieux et de le faire plutôt bien, de le faire partager. Parce que là encore, vous savez, ça change tout quand un élève voit son professeur lire, ce qui n'est pas quelque chose de courant, au fond, parce qu'on parle de la lecture et on s'impose, mais se l'imposer à tous en faisant effectivement de ça un geste social pour pouvoir ensuite échanger, débattre sur la lecture, ben c'est aussi savoir ce qu'on a à défendre, comment est-ce qu'on construit
et
son esprit critique.
Chacun son livre, ou d'ailleurs c'est
bien
un
sûr,
livre, c'est un essai, c'est un roman, c'est un journal.
Chacun choisit le livre qu'il a envie de lire, absolument.
Donc si on veut lire le matin avec le journal de sport, par exemple, on peut pendant un quart d'heure.
Bien sûr, c'est ce qui nous intéresse, et c'est ça aussi la socialisation par la lecture, c'est pouvoir en parler ensemble ensuite. Mmh. Et donc pour pouvoir en parler, il faut prendre
important
du plaisir à lire.
J'ai vu aussi
absolument
des élèves Marie lire Guerrier des bandes dessinées, par exemple. Mmh. Ça fait partie aussi de la lecture.
Et ça fait des années.
Bien sûr.
Pardon, ça fait des années, Marie, qu'on entend que les élèves de 6e comme ça arrivent au collège sans lire.
Oui, mais
pire qu'avant ou...
Non, en fait, on ne le mesurait pas jusqu'à présent. Et là, depuis 2 ans, il y a un test de fluence à l'entrée en 6e. Alors, ce texte, il est présenté aux élèves et ils doivent lire un maximum de lignes, de mots en 1 minute. C'est comme ça qu'on mesure leur fluidité de lecture. Alors, on estime qu'il faut lire au moins 120 mots en 1 minute pour avoir une maîtrise satisfaisante de la lecture à haute voix quand on arrive en 6e. Et vous le disiez tout à l'heure, notamment en zone d'éducation prioritaire renforcée, il y a un tiers des élèves, ils lisent même pas 90 mots en 1 minute. Donc voilà, on a maintenant, en fait, on mesure le problème de la lecture là pour ces élèves de 6e. Et pour obtenir une amélioration là, en 6e, évidemment, il faut reprendre les bases.
Dès le CP.
Et voilà, dès le CP. Et c'est pour ça que le ministère a décidé de mettre la priorité sur les fondamentaux et sur le primaire depuis le début du quinquennat.
Et on aura les classes dédoublées de CP qui vont arriver en 6e l'année prochaine.
Oui,
on peut espérer que ça...
C'est ça. Et là, en fait, ça concerne les élèves en éducation prioritaire, les classes dédoublées. Donc, ces élèves, les premiers qui ont bénéficié des doublements en CP, c'était en la rentrée 2017, ils vont arriver en 6e l'année prochaine. Et quand on regarde les écarts de compétences en lecture entre les enfants en réseau d'éducation prioritaire et les autres élèves là, sur les évaluations de cette année, on voit qu'ils ont rattrapé le retard de l'année dernière parce que les écarts s'étaient creusés à cause de la pandémie. Et on voit même que depuis les premières évaluations en 2018, eh bien, ils ont réduit les écarts. Donc les compétences en lecture des élèves en éducation prioritaire se sont améliorées. Donc oui, on peut espérer que l'année prochaine, en 6e, on voit les premiers effets.
Emmanuel Etis, il y a quelque chose qui m'a surprise en tant que maman, j'allais dire. On conseille de lire à haute voix. Il faut lire à haute voix, même au-delà du CP, quoi.
Ah ben bien évidemment, en fait, la lecture à voix haute, c'est ce qui permet de faire le test de fluence et d'entendre très directement, quand vous parlez à voix haute, le niveau de compréhension en fait de ce qu'est la lecture. Vous vous rendez bien compte que quand vous êtes en train de dire un texte en voix haute, même nous, on se rend bien compte de ce qu'on comprend, de là où on bute, de là où effectivement la compréhension des mots, la fluidité existe ou non. Donc la lecture à voix haute, c'est la connexion directe entre votre capacité de lecture et puis la manière dont on peut se faire comprendre par les autres. C'est pour ça que cette oralité-là, elle est très importante. Et puis, je pense qu'il y a aussi un plaisir aussi à lire à voix parce qu'on identifie très directement là où on bute, là où on a des problèmes, et on voit que cet encouragement, quand je parlais tout à l'heure de socialisation de la lecture silencieuse, la lecture à voix haute, la lecture ensemble, la lecture individuelle, c'est vraiment un ensemble qui permet de faire avancer nos sujets. Et il faut quand même se le dire, parce que c'est quand même aussi quelque chose qui nous réjouit tous dans l'échelle de chacune de nos académies, c'est que les résultats sur lesquels on arrive, vous avez parlé de la consolidation, mais du progrès d'avant Covid, je pense que ces efforts d'une politique publique menée sur la durée nous ont permis d'atteindre aujourd'hui quelque chose qui est quasiment historique sur le succès de la lecture. Et je pense qu'il va falloir suivre dans les années qui arrivent cette continuité des générations qui ont été formées. Et c'est aussi comme ça qu'on apprend le langage. Vous savez, il y a une citation que j'aime beaucoup qui est du professeur Bentolila qui dit « Un enfant n'apprend pas le langage en grandissant, c'est au contraire le langage qui le fait grandir ». Et bien ça s'exprime, le langage, c'est quelque chose qui s'exprime aussi à voix haute.
Bah écoutez, merci. Vraiment, on aimerait continuer d'ailleurs cette conversation et vous écouter parce que c'est tellement important la lecture pour ces jeunes gens. Bravo à cette initiative. Espérons que vous restiez longtemps recteur de l'Académie de Bretagne parce que souvent, ce qui est difficile dans l'administration, c'est la continuité et parfois on reste très peu de temps en place, monsieur Etis. Et celui qui vient derrière vous n'a pas forcément les mêmes idées.
Sans commentaire.
C'est dur de répondre à ça.
Non, moi, vous savez,
je trouve que c'est très important la continuité dans ces domaines-là. Et vous êtes en place depuis combien de temps?
Moi, je suis arrivé en Bretagne en 2019. J'étais avant dans l'Académie Nice, mais vous savez, ce qui compte avant tout, c'est la continuité des politiques publiques. Et,
oui.
Et voilà, on est au service de l'histoire, et c'est pas l'histoire qu'on doit mettre à notre service.
Vous allez rester combien de temps en Bretagne?
C'est pas moi qui décide, vous savez. Ouais,
vous restiez assez longtemps finalement pour effectivement mettre en place cette politique. Ça me paraît important pour l'administration dans tous les domaines d'ailleurs, qui est continuité. Merci beaucoup, monsieur.
Merci
Etis.
À vous.
La Au pause, revoir. On va parler de la Coupe du Monde au Qatar.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Il y a déjà des adhérents qui nous ont dit qu'ils n'iraient pas à cette Coupe du Monde. C'est un débat en interne que nous avons, mais c'est vrai qu'il y a un questionnement pour cette compétition au Qatar, au vu de ce qu'il s'est déjà passé, au vu des enjeux environnementaux tels qu'on peut les connaître actuellement.
À peine les Bleus qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde de foot, certains supporters, vous venez de l'entendre, s'interrogent. Faut-il aller au Qatar, supporter l'équipe de France peut-on cautionner ou non ce mondial? Il y a les arguments écologiques, géopolitiques, la question des droits de l'homme aussi. C'est le deuxième débat d'RTL Midi. Bonjour Gabriel Malika.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, auteur notamment de Katharina, un roman justement sur fond de Coupe du Monde au Qatar, paru aux éditions Intervalle. Vous connaissez bien le Qatar puisque vous avez vécu là-bas. Il faut la boycotter d'après vous, cette Coupe du Monde?
Il faudrait, oui, mais de toute façon, je pense que la machine est lancée. Moi, ce qui me gêne, si vous voulez, pour y avoir vécu, c'est que c'est un pays qui n'est pas habitué à être ouvert sur le monde et qui, je ne le vois pas, en fait, supporter tous les phénomènes qui sont autour de la Coupe du Monde, c'est-à-dire les mouvements de foule, l'alcool, et j'en passe. C'est un petit pays qui n'est pas préparé à ça. Et moi, en fait, je m'interroge sur la façon dont ils vont justement... régler tous ces problèmes. Je vois pas comment ils vont le faire, en fait.
Ils sont suffisamment intelligents, j'imagine, les dirigeants qataris, pour donner une image positive de leur petit pays et, au contraire, pendant un mois, mettre entre parenthèses, sans doute, les us et coutumes du Qatar.
Oui, Pascal, mais ça, c'est Dubaï qui aurait pu le faire. Parce que Dubaï, eux, ça fait 20 ans qu'ils font des compromis. Le Qatar, il y a même une rumeur qui dit qu'ils allaient mettre des bateaux, en fait, au large de la Corniche, dans la baie, où on pourra boire et après revenir. Et une fois qu'ils sont revenus, qu'est-ce qui se passe ?
C'est pas l'intérêt du Qatar. L'intérêt, c'est de donner une belle image. Toute la politique du Qatar en termes de sport, c'est de donner au Qatar justement une image extrêmement positive à travers le tennis, à travers la Formule 1, à travers le foot. Donc là, ça sera le point d'orgue, j'ai envie de dire, de cette communication.
Très bien, la communication, d'accord. Mais dans les faits, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a plein de questions auxquelles on n'a pas de réponse. Et moi, c'est ça surtout qui m'interroge concrètement. Qu'est-ce qui va se passer avec les supporters? Il faut quand même voir que le Qatar, c'est une ville où, par exemple, il y avait eu un opéra d'Aïda Verdi. Ils avaient rhabillé les jeunes femmes parce qu'il y avait trop de nudité. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez avoir les supportrices anglaises ou belges en bikini sur la corniche? Il se passe quoi? Vous allez avoir toutes les caméras. Je pense qu'on ne mesure pas tous les potentiels problèmes qu'il va y avoir durant la compétition.
Ça peut être aussi l'occasion, j'allais dire, de dénoncer justement un certain nombre de choses, que ce soit la question de la place des femmes, des droits de l'homme.
Je suis d'accord, mais est-ce que c'est à la Coupe du Monde de football de l'autoriser? La Coupe du Monde de foot, c'est une fête. Et là, en fait, je ne vois pas comment la fête peut être organisée de façon optimale. C'est ça qui me gêne. Il faut quand même voir que les 8 stades qu'il va y avoir, c'est sur une surface égale à l'agglomération de Lyon. Alors déjà, c'est complètement absurde. On ne va pas reparler du fait que les spectateurs, faut les payer jusqu'à maintenant pour qu'ils aillent au stade. Mais il y a quelque chose de très troublant, en fait. C'est comme si, en fait, personne n'avait vraiment pensé concrètement, de façon pragmatique, à tout ce que ça veut dire, la Coupe du Monde de football, à part le côté football, c'est-à-dire 22 acteurs sur un terrain et des caméras en gros plan sur le terrain. Mais le reste, et pour y avoir vécu, je peux vous dire, j'ai du mal à l'imaginer. Sans parler du fait que les Qataris eux-mêmes n'en veulent pas de cette Coupe du Monde. Mmh. Moi, j'ai écrit mon livre avec des Qataris qui m'ont dit « c'est pas nous, on ne veut pas de ce
match-là ». Ils ne vont pas aller manifester contre les matchs ?
Ben non, ils ne peuvent pas. Mmh. De toute façon, s'ils manifestent, on les met en prison. Donc,
Bon, c'est dans un an pile, si j'ose dire. Moi, ce qui m'amuse toujours, c'est que les footballeurs, que j'adore, bien sûr, j'ai une grande tendresse pour eux, mais ils ont des indignations sélectives. Manifestement, sur le Qatar, il n'y a pas un mot parce que, évidemment, ils vont y aller jouer, ils vont gagner sans doute beaucoup d'argent et qu'effectivement, tous les footballeurs qui parfois enfourchent des combats, celui-là, manifestement, ils ne le mènent pas.
C'est difficile. On sait les intérêts qu'a le Qatar en France. Mmh. Oui, je suis d'accord. C'est plus facile de s'indigner sur les Ouïghours que sur le Qatar. C'est plus lointain. Ouais. Mmh.
Bah merci, monsieur Malika. Et c'est quand même une surprise. Il y a des choses qui pourront nous étonner dans cette Coupe du Monde.
Oui, sans doute.
C'est dans un an pile, ce sera au mois de décembre. Donc, il y a une forme de curiosité quand même.
Déjà, rien que le calendrier sera sans doute
dépensé. Exactement. Donc, il y a aussi des côtés positifs, il ne faut pas les nier. Et la Coupe du Monde, c'est toujours un merveilleux moment pour ceux qui aiment le football. Il est 12h59. On va marquer une pause et revenir avec les auditeurs.
RTL